grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Dans un monde idéal, les parents transmettent des valeurs à leurs enfants tout en préservant leur individualité. Mais que faire en cas de clash plus ou moins larvé quand vos enfants et vos ados ne partagent plus vraiment les mêmes valeurs? Qu'il s'agisse d'argent, de morale, de mœurs, de politique, de religion ou encore de mode de consommation, vous proclamez des idées de gauche et votre fille aînée penche très à droite, vous militez pour la décroissance et votre fils cadet ne jure que par les vêtements de marque, vous êtes complètement athée. Et votre petit dernier est très attiré par la religion, vous vous opposez fermement à la PMA pour toutes, et votre ado défend ardemment ce type de procréation. Et que dire des conflits qui naissent quand les parents manquent de cohérence entre les valeurs affichées et le style de vie? Par exemple, militer pour la mixité sociale à l'école primaire et choisir le privé au collège. Et puis nous verrons également, avec le quotidien La Croix, jusqu'où exposer ses enfants à la différence au risque d'une remise en question de vos valeurs. Avec nous ce matin, le sociologue François de Singly, la pédopsychiatre Anne Révalévy, le psychologue clinicien Didier Pleu et la journaliste Marie Boueton. Avez-vous déjà vécu des conflits de valeurs avec vos parents ou avec vos enfants? Contactez-nous au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef à l'hebdomadaire Le 1. Vous portez chaque semaine un regard singulier sur la société et ça fait du bien. Quoi de neuf à la une?
Eh bien, on va parler d'enfants qui s'opposent à leurs parents, puisqu'on va parler des grandes grèves scolaires pour le climat.
A tout à l'heure Julien Bisson. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Bonjour François de Singly.
Bonjour.
Je suis heureux de vous accueillir. Vous êtes professeur émérite en sociologie à l'Université Paris-Descartes. Parmi vos nombreux livres, Sociologie de la famille contemporaine, publié chez Armand Collin. Bonjour professeur Anne Révalévy.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de psychiatrie de l'adolescent à l'hôpital d'Argenteuil et vous enseignez à l'Université Paris Diderot. Bonjour Didier Pleu.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicien, grand spécialiste de la question de la frustration chez les enfants et les adolescents. Marie Boueton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à La Croix et dans votre quotidien ce matin, jusqu'où exposer son enfant à la différence. Alors François de Singly, avant de s'intéresser aux conflits de valeurs au sein d'une famille, j'aimerais que vous dressiez à grands traits, évidemment, le portrait de la famille contemporaine des années 2010. En quelques mots.
Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas forcément les différences structurelles du type famille classique, mono, homo, recomposée. Ah, elles ont leur spécificité, mais je pense que tout parent, par rapport à notre sujet, est pris dans des contradictions parce que le principe de cohérence dont vous avez parlé tout à l'heure, il est mis à mal, puisque par principe, aujourd'hui, la famille, elle a conservé une fonction universelle. La famille a été inventée, je pense, pour ça. Il y a la logique de la reproduction sociale, de faire en sorte que ses enfants occupent des positions au moins comparables à la logique de la lignée familiale. Et puis, c'est adjoint, schématiquement, à partir des années 60, mais bien, il y a une histoire plus longue, un autre impératif qui est celui de respecter justement la nature de l'enfant. Je vais prononcer, pour faire plaisir à mon voisin de gauche, pour ceux qui ne me voient pas,
c'est Didier,
dans la mouvance d'Olto, qui est devenue une forme d'idéologie, on pourrait dire dominante, mais qui était, on doit respecter la nature profonde de l'enfant. Et donc déjà, c'est une contradiction, parce que on ne peut pas dire qu'à l'adolescence, ils soient tous favorables à suivre des études compliquées et tout, dans toute famille, hein, je veux dire, et tout. Donc il y a une contradiction assez forte, parce
dans
que
toute la famille, qu'elle soit monoparentale, homoparentale, nucléaire...
Ben après, naturellement, si on a deux parents, on peut choisir lequel taper. Si on n'en a qu'un, il y a plus de chances que ce soit celui-là éventuellement. Mais sur le fond, c'est pas. Mais ce qui est intéressant du point de vue, si je puis me permettre, plutôt historique en Occident, de toute façon, il y a la question est posée depuis, à mon avis, la modernité occidentale, du droit des enfants à s'émanciper des parents. C'est même dans les évangiles, hein, et dans la Bible. Ben oui. Et quand même, un des premiers grands exemples catastrophique, entre guillemets, c'est François d'Assise. Hein. François d'Assise, il était programmé en termes de valeurs sociales. Il devait faire la boutique de son père, marchand de couleurs, marchand de tissus. Et puis, il a dit non, j'ai un autre projet. Bon, ça n'a pas suscité l'enthousiasme des parents. Hein. Le père a quand même fait un procès, donc on en est même loin de ce type de conflit, c'est-à-dire il le met au tribunal, et François d'Assise quitte ses vêtements payés par ses parents, et quitte le tribunal tout nu. Donc on a des exemples. Ce que je voulais dire, c'est que c'est une révolution plutôt morale que historique. Le droit à devenir soi-même. Et droit à devenir soi-même, je le rappelle, ça veut dire ne pas forcément être seulement fils d'eux ou fille d'eux.
À vrai Valévi, des parents sont des éducateurs hein, qui transmettent des valeurs et dans le même temps, on le voit, ils doivent permettre aux enfants de devenir des individus autonomes et c'est parfois contradictoire, et souvent contradictoire.
Oui, mais il faut se décaler un peu du moment où les conflits surviennent, c'est-à-dire que la question de l'incarnation des valeurs par les parents puis par les enfants, elle se situe aussi au tout début du développement des enfants, c'est-à-dire que quand on prend soin de ses enfants, on véhicule un certain nombre de valeurs déjà. C'est-à-dire que dans les interdits, dans les besoins fondamentaux, il y a des valeurs très fortes de qu'est-ce que c'est être soi, qui est l'autre, comment on interagit dans un groupe. Et donc la question de l'émergence du conflit plus tard à l'adolescence, elle peut pas juste tomber au milieu des familles comme si c'était rien passé avant. Donc quand on veut envisager la construction de ses enfants comme des sujets avec un certain nombre de valeurs, eh bien, on y pense déjà très tôt de comment on va transmettre le monde scolaire, le monde de la culture, le monde de l'altérité, comment on va différencier ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et tout ça, ça commence déjà avec des bébés et des tout-petits.
Marie Boéton de la Croix.
Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir combien les familles aujourd'hui s'ancrent dans nos sociétés contemporaines dans un discours ambiant tendant à valoriser la différence. Elle enrichit, elle apprend l'esprit critique, elle appelle à la tolérance. Donc, le discours ambiant vise à la valoriser, et à juste titre. Et dans le même temps, les parents disent d'un côté à leurs enfants, ouvre-toi à la différence, sois ouvert à ce monde-là, mais copie-moi. Surtout reste comme moi. Il y a quand même pour les enfants une forme d'injonction paradoxale qui n'est jamais dite comme telle, car les parents n'assument jamais ouvertement la deuxième partie de la phrase. Duplique-moi, copie-moi. On n'assume pas ça. Sauf que c'est quand même un désir plus ou moins conscient chez le parent.
Didier Pleu.
Oui, moi je suis heureux de savoir qu'on est très vigilant sur la singularité des ados et en disant qu'il faut qu'ils soient indépendants, etc. Mais ce que je vois souvent en consultation, c'est que les parents ont peur. Justement, cette fameuse crise d'adolescence. Il y a toujours des mythes d'abord, pour me prouver qu'il y a une crise d'adolescence. Et secondo, il y a quand même des mythes. Il y a le mythe de la rébellion. J'entends souvent les parents me dire, mais c'est normal, il faut tuer le père, etc. On a même entendu des psys qui disaient qu'il faut être un punching ball quand on est papa à l'adolescence. Bon, si en termes de boxe, je préfère que ce soit un pari...
Sparring partner.
Sparring partner, exactement. Oui, il y a aussi le mythe de la fragilité, souvenez-vous. Alors, le complexe du homard, chez Dolto. C'est-à-dire, si on déséquilibre trop l'ado, si on est un petit peu trop conflictuel, ça va être délétère pour lui. Donc, faut faire attention, et je crois que les parents, on en reparlera, hein, quand on parle de cohérence familiale et de valeurs, c'est... Si on veut rester un adulte significatif pour ses enfants, faut pas avoir peur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de s'obliger à collaborer constamment avec les ados pour dire « sois épanoui mon enfant ».
André Valévi.
On peut craindre quand même le mystère de l'adolescence et l'intensité de ses oppositions. Ça, c'est une expérience normale pour les parents. C'est-à-dire que, à un moment, quelque chose s'ouvre de nouveau, de très intense et de conflictuel. Et que ça puisse faire vivre de la peur et de la crainte, c'est normal. La question, c'est, pour se confronter à cette expérience de peur et de crainte, il faut être capable aussi d'envisager les choses un peu plus largement avant de poser des questions, de se penser soi-même comme un être en relation depuis un certain temps. C'est important de s'incarner dans une certaine histoire avec son enfant et pas de se vivre à un moment T comme si tout était isolé, là, conflictuel, qu'on était coincé et qu'il allait falloir trouver des solutions pour surtout retrouver des valeurs communes. Ça marche pas. Il n'y a pas de possibilité immédiate à des solutions.
J'aimerais tout de même qu'on s'attarde sur le mot valeur, hein, parfois pris dans son sens le plus étroit. Le Larousse nous dit que c'est ce qui est posé comme vrai, beau, bien, selon des critères personnels ou sociaux et qui sert de référence, de principe moral. François de Singly, une valeur sert de guide et de repère pour un individu.
Oui, mais Le terme valeur, il est quand même, je sais pas, on entend toujours sur France Inter Monsieur Courciel parler des valeurs du CAC 40. Donc le mot valeur, il est quand même utilisé au moins, sans doute plus fréquemment sur la radio, par la valeur économique, qui n'est pas forcément un exemple même de... Bon, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est justement la logique de la valeur personnelle, d'une certaine façon, qui ne renvoie pas direct, qui est une valeur en tant que telle, mais qui ne renvoie pas à, disons, une échelle de valeur morale. Moi, je pense que ce qui est vraiment important du point de vue de la famille, d'une certaine façon, c'est qu'il y a une contradiction. Vous l'avez très bien dit, Marie, qui est justement une injonction à l'ouverture, alors que quand même, l'histoire de la famille, c'est d'abord de la fermeture. J'ai retrouvé...
La fermeture sur ses valeurs.
Non, mais oui. Famille, je vous hais. On s'arrête toujours là de Gide. Mais la phrase d'après, c'est foyer clos, porte refermée. Et quand même, quand on pense au moment où c'est dit, début du 20e, puis à qui est Gide, c'est que ici, les valeurs peuvent sentir le renfermé. Les valeurs des parents.
André Vallévy, les valeurs des parents, les valeurs familiales, c'est essentiel dans la construction de l'enfant ?
Oui, mais je différencierais les valeurs qui sont liées à l'histoire familiale des valeurs qui constituent des données communes à un groupe, à une société, à un milieu scolaire. C'est-à-dire que il y a ce qui est très important dans l'interaction avec les enfants, c'est ce qu'on porte comme histoire. Une histoire sur plusieurs générations d'ailleurs, sur ce qu'on a vécu, sur et comment dans cette histoire on a compris une certaine représentation, on a intériorisé une certaine représentation du monde et de comment on vit avec les autres. Donc les valeurs familiales sont d'abord aussi des valeurs très intimes, très historiques. Et puis après, elles vont se confronter à des choses qui viennent du dehors, hein, où il y a des propositions de valeurs qui viennent de l'extérieur, en milieu scolaire, le plus simple, hein, et qui a cette nécessité d'articuler les choses du dedans et les choses du dehors. Et que c'est ces articulations-là qui vont finalement construire les valeurs au fur et à mesure des sujets en devenir. C'est toujours une articulation entre le dedans et le dehors. Et les parents peuvent se prendre soin de la transmission d'une intimité et de qu'est-ce qui fait valeur pour eux, mais évidemment, ils doivent aussi prendre soin de la possibilité du va-et-vient entre ce qui se passe dedans et ce qui se passe dehors.
Marie Boëton.
Oui, pour avoir interrogé un certain nombre de parents qui étaient attristés, voire relativement déstabilisés de voir leurs enfants ne pas reprendre leur corpus de valeurs, je me suis rendu compte lors des entretiens qu'un certain nombre de parents confondaient choix de vie et corpus de valeurs. Donc leurs enfants, en effet, faisaient des choix de vie professionnels, conjugaux, idéologiques, religieux, qui étaient bien distincts de ceux de leurs parents, ce qui ne voulait pas dire qu'ils ne reprenaient pas à leur compte toute une partie du corpus de valeurs de leurs parents. Je pense à un exemple très précis d'une femme d'une soixantaine d'années, très croyante, très engagée dans les milieux caritatifs, dont le fils était athée, et qui prenait conscience au fil de l'entretien qu'en fait, certes, son fils était athée, mais en fait, il était aujourd'hui à la tête d'une ONG caritative et que donc, il avait repris la valeur de solidarité qui lui avait été inculquée dans l'enfance. Et cette mère de famille en prenait conscience au moment où elle me le disait.
Marie Boëton, dans un sondage d'avril 2018 de La Croix et BVA, vous avez demandé quelle valeur souhaitez-vous le plus transmettre à vos enfants. Les parents ont répondu à 65% l'autonomie, la bienveillance à 61% et loin derrière, la conformité à 11%.
Oui, on était très étonnés en effet. Alors, il faut faire attention, ça c'est ce qui est affiché. Il faut être sûr que la volonté consciente corresponde bien au désir qui peut être plus inconscient chez les parents, de duplication.
François de Singly.
Votre étonnement m'étonne, hein, parce que quand même, il y a quand même de nombreux travaux qui montrent, sur le fond, depuis les premiers travaux, c'est 1920, aux États-Unis, si on veut, c'est la chute progressive de la valeur obéissance, donc on retrouve le rapport à l'autorité, dont il faudrait aussi parler, parce qu'une c'est généralement aussi, à mon avis, on confond et on introduit une autorité explicite, alors que une partie de la transmission se fait, et l'envers a été la valeur de l'autonomie. Là, on retrouve toute l'histoire d'un nouveau modèle d'individu. Donc, ça a été au départ un modèle d'individu adulte, c'est la philosophie des Lumières, et puis progressivement, c'est passé assez lentement quand même, en fait, dans le registre de l'éducation. Mais ce que moi je pense vraiment important, c'est effectivement la confusion souvent, parce que les valeurs, elles sont instituées, non mais dans des institutions, Moi aussi, j'ai des exemples comme ça. Je vais prendre l'exemple de ma mère. Ma mère était pour la valeur du mariage, incontestablement. Et je me rappelle, ma fille aînée n'était pas mariée. Et elle demandait toujours, avec quelqu'un de formidable, toujours elle me demandait où j'entendais si elle appelait ma fille et tout, et disait, et comment va Adrien? Mais c'était évident, Adrien faisait partie de la famille au même titre que les autres. Elle avait un critère d'une forme de rigidité. Alors c'est pour ça que moi je me méfie, j'utilise assez peu le mot valeur, de rigidité de valeur instituée ou incarnée qui s'appellerait se marier, et puis de l'autre côté des valeurs, à mon avis, fondamentales qui sont
peut-être
formidables.
Oui, sur les valeurs, enfin moi je crains moins que les parents essaient d'imposer des valeurs, des principes, des dogmes. Ce que je vois surtout, c'est des parents qui ont peur de cette relation conflictuelle au moment de l'adolescence. Et là, j'ai envie de dire, il faut tenir bon, quoi. Rousseau disait toujours qu'il faut s'instruire avant de réfuter. Et j'y crois, ça. Si les ados ne trouvent pas en face d'eux des parents qui croient en des valeurs, il n'est pas question de formater les enfants, mais de dire, voilà, je crois en cette religion, je crois en cette idéologie. Est-ce que c'est cette confrontation, moi je suis très piagétien, qui va faire que l'ado va se déséquilibrer dans ses convictions, mais va aussi, comme on dit, avoir une équilibration majorante. C'est-à-dire, il faut arrêter de dire que les parents et leurs valeurs, ça ne peut que castrer l'enfant. Je n'y crois pas du tout.
Piagétien de Jean Piaget.
Oui.
Évidemment. Allez, avez-vous déjà vécu des conflits de valeurs avec vos parents ou avec vos enfants? 01 45 24 7000. À la préparation de cette émission, Alexia Rivière et Alexia Lacour, avec l'aide de Nicolas Beauve, et c'est réalisé par Claire Destacan.
Mais autour de moi, tout tourne si bien.
téléphone, ça c'est vraiment toi.
Paul est en stage dans les gorges du Pouchelon.
Grand bien vous fasse.
J'y vais plus.
Enfin Paul, tu délires.
Merde, mais j'ai 16 ans tout de même.
Il y a peut-être 16 ans, mais tu peux rester poli.
Sur France Inter.
10h27, que faire quand vos enfants, vos adolescents n'adhèrent plus à vos valeurs? 01 45 24 7000. Et avec nous, Sylvie de Loire-Atlantique. Bienvenue Sylvie dans Grand bien vous fasse.
Bonjour.
Alors vous êtes la mère de trois enfants. Comment ça s'est passé à l'adolescence?
Bon, alors mes enfants aujourd'hui ont 30, 28 et 26 ans. Et à l'adolescence, évidemment, ils se sont opposés à nos valeurs, puisque nous, il faut savoir qu'on n'avait pas la télé. Mmh. Il n'y avait pas de marque, donc dans le souhait des vêtements, pas de marque, pas de maquillage avant un certain âge, pas de portable, etc. C'est des valeurs qu'on entretenait, des bouquins à la maison, des discussions beaucoup. Et donc, à l'adolescence, eh bien, ils se sont opposés à nous et mon conjoint se révoltait et se mettait très en colère. Et moi, je lui dis, mais non, on a gagné parce que ce qu'on voulait, c'est des enfants qui réfléchissent par eux-mêmes et qui défendent leurs propres idées. Et c'est ça, même s'ils s'opposent à nous, ils sont en train de vivre ça, de développer leurs propres idées. Et je dois avouer qu'on a grandi avec eux. Moi, je suis vraiment, je les remercie beaucoup, j'ai grandi avec eux, j'ai appris à ouvrir mes yeux aussi, à changer de lunettes, comme disait mon fils. On a gardé nos valeurs, ils nous remercient aujourd'hui des combats qu'on a menés, mais on s'est enrichis les uns les autres par ce dialogue.
Il est formidable ce témoignage, Andréa Lévy.
Il donne envie, en fait, d'avoir les enfants de madame. La réalité, c'est que ce qui est important dans ce que madame raconte, c'est qu'on peut aussi apprendre des valeurs de ses enfants en construction. C'est-à-dire que la dimension conflictuelle, c'est fatigant. C'est-à-dire le besoin d'opposition fait que c'est difficile. Mais madame s'est enrichie elle-même à la construction de nouvelles valeurs de ses enfants. Et ça permet d'avoir quand même un enrichissement et une expérience plus positive que ce qu'on imagine de l'opposition.
Didier Pleu.
Oui, la question c'est souvent, est-ce qu'on peut devenir indépendant, s'autonomiser, sans réfuter toutes les valeurs parentales? Moi je pense souvent à ce que disait Jean-Claude Michéal, philosophe, quand il parlait du complexe d'Orphée. Il disait, mais pourquoi toujours cette attitude progressiste? On va s'épanouir, on va devenir, mais en faisant table rase du passé. Je crois que ça c'est une confusion quand on dit aux parents, acceptez les nouvelles valeurs de vos enfants. Non, si ça s'est confronté à vos propres valeurs et s'ils gardent des choses de votre transmission, c'est pourquoi tout le temps faire rébellion, contestation du passé?
François de Saint-Guy sur le témoignage de Sylvie.
Oui, mais c'est aussi pour répondre à ça. L'image de la table rase, elle n'est quand même pas si souvent, politiquement, elle a été utilisée. Du point de vue des textes familiaux, c'est pas vrai qu'historiquement, elle était d'abord utilisée. Donc on invente un mythe, le mythe de la table rase pour ceux qui veulent l'attaquer. Moi, j'ai au contraire une phrase d'un René Char qui est que la transformation aujourd'hui, il faut assumer, on doit transmettre, au sens de sur toutes les formes et tout, mais c'est pas forcément moi qui écrirai mon testament, c'est mes enfants qui écriront mon testament, c'est-à-dire que à l'intérieur de tout ce qu'ils ont que je leur aurai transmis, ben ils feront leur propre hiérarchie. Et donc c'est une logique dans laquelle effectivement faut pas avoir mauvaise conscience de transmettre, mais il faut quand même accepter que ils peuvent éventuellement supprimer des valeurs auxquelles justement on tenait éventuellement beaucoup.
Marie Boëton.
Oui, ce que je trouve assez touchant dans le témoignage de cette femme, c'est on dit souvent il faut symboliquement tuer le père. Je trouve qu'elle a une manière de dire que elle a réussi à faire le deuil de l'enfant fantasmé, qui serait une duplication de soi. On voit bien qu'avec son conjoint, ça a pu être problématique à un moment donné. Peut-être qu'elle, elle avait réussi à faire ce deuil-là avant lui. Et ça, c'est assez bouleversant.
Sylvie, à l'adolescence, ça s'est passé comment, ce conflit de valeurs?
L'adolescence, la mienne ou celle de mes enfants?
Celle de vos enfants, celle de vos enfants. Comment ça s'est traduit, le fait qu'ils s'opposent à vous?
Alors déjà, il y a eu avant l'adolescence, disons, la rébellion contre le fait qu'il n'ait pas de télé, puisque comment tous les autres l'avaient. Et en fait, c'est en discutant entre eux qu'ils ont trouvé le moyen de valoriser ça, en fait. Par un exemple, une anecdote, ma grande était en lycée et quand elle était en aide à la personne, et du coup, première discussion, les les appareils ménagers, dont la télé. Elle dit, ben, on n'en a pas. Les autres la regardent en lui disant, mais vous étiez si pauvre que ça. Alors, elle rigole, elle dit, mais non, mais aujourd'hui, n'importe quel pauvre a une télé. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Et donc, quand est venue quelques semaines après la discussion sur le micro-ondes, ben, ils se sont tous retournés vers elle. Ben non, on n'en a pas, évidemment. Et du coup, ils lui ont, et elle dit, et vous savez, pour aller de chambre en chambre, on va de liane en liane. Et ils ont dit, ah ouais, c'est vrai. Et là, elle est rentrée, on a rigolé toute la soirée avec ça pour dire, vous voyez, le fait qu'on soit si différent de pas avoir de télé de micro-ondes, ils étaient capables de croire qu'on allait de liane en liane, de chambre en chambre. Et voilà, c'était cette forme d'ouverture, de discussion, même s'ils s'opposaient, ça amenait toujours des bonnes choses derrière, quoi.
Merci beaucoup, Sylvie, de nous avoir appelés. Bienvenue, Isabelle, vous appelez Damien.
Oui, bonjour.
Alors, vous avez trois filles.
Voilà, j'ai trois filles. Donc, les rapports mère-fille à l'adolescence, c'est toujours quelque chose d'un peu chaud, on va dire. Mais malgré tout, j'ai eu trois schémas complètement différents. Alors, elles ont maintenant 27, 25 et 16 ans. Donc, la petite dernière est encore dans l'adolescence. Ma fille aînée m'a commencé son adolescence à 11 ans. Je l'ai vécue jusqu'à 22 ans. Donc, j'en ai bien profité parce qu'effectivement, de toute petite, je leur ai inculqué énormément de valeurs, le respect, la politesse, l'écoute. Donc, quand je les disputais, je leur disais pourquoi j'ai disputé, pourquoi j'étais pas contente. C'était pas juste mon statut de mère qui faisait que c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort parce que tu es l'enfant. Donc, j'expliquais toujours, ça désamorçait un peu les choses. Mais au moment de l'adolescence, ma grande m'a explosé parce que, bon, elle est rentrée en plein conflit comme beaucoup de filles, enfin, beaucoup d'adolescents, pas spécifiquement les filles, beaucoup d'adolescentes. Donc, mais je suis restée fidèle à mes valeurs. Je lui ai dit, écoute, t'as le droit de pas être d'accord. Je te dis pourquoi je pense pas la même chose que toi. Mais t'as le droit aussi de rester poli, de respecter, d'écouter. Malgré tout, ça a duré quand même, voilà, jusqu'à ses 22 ans.
Et avec les deux autres, Isabelle, comment ça s'est passé?
Pardon?
Avec les deux autres, comment ça s'est passé?
Alors, la deuxième, en grandissant, partageait un peu plus de valeurs, même encore aujourd'hui, on a des valeurs fortes communes. Donc, c'est vrai que quand on parle sur le plan professionnel, on fait écho un peu l'une à l'autre. La première, je partage pas du tout ses valeurs professionnelles, mais de toute façon, elle sait que je suis là, que je l'écoute. S'il y a des soucis, je la soutiens. Je veux dire, ça n'en retire rien au lien merci, bien évidemment. Mmh. Et puis la petite dernière, elle est beaucoup plus sereine. Elle a une adolescence tranquille. Il n'y a pas de cri, il n'y a pas de crise. Elle peut ne pas être d'accord avec moi, mais ça se fait de façon apaisée. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la discussion. Quand je lui dis que je ne suis pas d'accord, je lui explique pourquoi je ne suis pas d'accord, pourquoi elle ne peut pas faire telle ou telle chose, même si elle me dit, bah, mes copines le font, etc. Mmh. Ben oui, mais tes copines, voilà.
Isabelle, Didier Pleu, le pédopsychiatre Didier Pleu a pris beaucoup de notes pendant que vous parliez.
Ah oui, non, parce que je trouvais qu'Isabelle était très authentique. Moi, quand elle a résisté, effectivement, aux confrontations de son aîné, elle restait sur ses valeurs. C'est ça, il y avait un directeur d'établissement avec qui je travaillais, qui disait toujours, Louis Caseline disait toujours, mais devant un ado, faut habiter sa parole, être authentique. C'est-à-dire, s'il y a une coiffure qui vous plaît pas, s'il y a un truc qui vous plaît pas, on a le droit de le dire. On va pas interdire, mais on a le droit de le dire. Et c'est cette confrontation-là qui est enrichissante.
André Valévy.
On peut interdire certaines choses quand même, c'est-à-dire qu'on peut donner son avis et puis énoncer un interdit. L'interdit n'est pas obligé d'être respecté, il peut être très bien transgressé, mais au moins il a été dit. Moi, ce qui me paraît très important dans la question des valeurs de la famille et de l'ouverture au monde extérieur, c'est aussi, par exemple, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Moi, je voudrais insister sur le fait que les réseaux sociaux à l'adolescence sont un espace d'une réalité à laquelle les adultes n'ont pas accès, dont ils n'envisagent pas l'intensité de la violence verbale, par exemple, qui règne, la possibilité de l'expression d'une haine gratuite, complètement libérée, et que là, pour le coup, les valeurs intrafamiliales face à ce monde-là, ça devient un peu plus compliqué, et il faut en être conscient, il faut pas faire comme si ça n'existait pas, parce que ça pulvérise un certain nombre de valeurs portées.
Oui, donc, tout à fait d'accord sur le danger des réseaux sociaux, parce que c'est une culture d'ados entre eux, et l'adulte est absolument absent, et donc ça, c'est très dangereux.
Merci beaucoup, Isabelle, d'avoir témoigné. Un mail nous parvient, mon frère et moi avons été élevé par des parents de gauche, aimants, ouverts, généreux. Et pourtant, mon frère, devenu adulte, a des idées d'extrême droite. C'est particulièrement incompréhensible pour nous tous, et pour ma mère en particulier, qui se pose sans cesse des questions sur ce qu'elle a pu rater dans l'éducation. André Balévy.
Alors,
vous êtes pédopsychiatre.
Non, mais la question des valeurs n'efface pas la question du caractère. Je vais essayer de répondre sur deux niveaux. C'est-à-dire que, on a des enfants, parfois, qui ont une personnalité, un caractère. C'était pas exactement ce qu'on avait imaginé, mais c'est comme ça qu'ils sont. C'est-à-dire que, et après, ce qu'on est, va avec les valeurs qu'on choisit. Donc, on peut être très déçu de voir qui est l'enfant qu'on a eu, que c'était pas exactement comme ça qu'on l'imaginait. Et les valeurs, ça découle aussi parfois de ça. C'est pas qu'on a raté quelque chose, c'est aussi qu'on a un être humain qu'on n'a pas complètement anticipé et maîtrisé dans son développement.
François de Singly.
Dans l'exemple, je dis pas que ça soit facile pour le parent de gauche, mais en même temps, on n'est pas quand même que de gauche. Il y a quand même des imbéciles à gauche, à droite, à l'extrême droite, à l'extrême gauche aussi. Donc, ce que je veux dire, rater son éducation... peut-être qu'il y a quand même des gens, qui sont aussi formidables à droite.
Évidemment.
Évidemment. Donc, en fait, ça dépend aussi. Peut-être qu'il a des valeurs.
Didier Pleu.
Oui, bien sûr, nos enfants ont des tempéraments différents, etc. Ils peuvent tomber dans des idéologies contraires. Mais là, je crois aussi, est-ce que le parent ose s'opposer? Moi, je me souviens que quand mon aîné a commencé à flirter avec je ne sais quel mouvement, je me suis battu, mais vraiment battu, non pas pour dire ce que je pensais bien, mais ce que tu penses, c'est pas terrible. Si on a des valeurs humanistes, on peut pas accepter que son enfant devienne égocentrique, adultère, etc. Il faut pas lâcher.
Dis donc, mon pauvre chéri, ça rigole pas là-dedans, hein?
Moi, j'aurais pas tenu 15 jours dans un bahut pareil.
Depuis plus d'un siècle, la mission de notre établissement est de former les élites du pays. Non mais ça va, pète un coup, monsieur Lanvin. Fais-moi un joint.
Tu veux pas retourner dans le public?
T'es fou, quoi? Si, c'est la crème de la crème. Moi, je veux rester là, je te le dis.
Excuse-moi, Elliot, mais face à scolarité dans le public, ça n'a jamais empêché personne de réussir dans la vie. Regarde ton père et moi.
Ouais.
Mais sérieux, vous n'avez pas marre de votre délire bobo-gauchiste à deux balles, là?
Quoi?
Regardez un peu comment vous vivez, non? Vous avez une nouvelle bagnole, Salomé et moi, on est dans le privé, on part en vacances à Tahiti. Moi, je vous le dis, vous êtes de droite.
Fais extrêmement attention à ce que tu dis, Elliot.
Ouais, je te rappelle qu'on vote toujours vert au premier tour et PS au second.
Non, hein. Tu parles. Ça, c'est pour vous donner bonne conscience. En vrai, vous êtes de droite.
Quoi?
Rappelle
ce que tu
viens
de dire, là.
On n'est pas de droite, Elliot! Je t'ai interdit de dire ça, tu m'entends?
Rappelle ce que tu viens de dire.
Extrait de la série « Fais pas ci, fais pas ça ». Marie Bouéton, la cohérence entre les valeurs transmises et les normes de comportement, c'est un grand enjeu pour chaque parent. Et là, on vient d'assister, dans cet extrait, à une incohérence.
Oui, il y a clairement un hiatus entre le discours tenu et puis potentiellement le comportement. Et sans doute que le comportement est... Alors, je m'efface évidemment devant les psychologues qui sont autour de cette table. Sans doute que le comportement est beaucoup plus décisif au quotidien que le discours tenu, a fortiori, si il n'est pas forcément conforme ensuite à...
Prenons l'exemple de l'école. Des parents un peu bobos, de gauche, qui militent pour que leurs enfants fréquentent l'école primaire dans un quartier populaire. Ils célèbrent la mixité sociale. Mais au collège, on décide de scolariser son enfant dans le privé, de contourner la carte scolaire, car finalement, la mixité sociale que l'on prône auprès de ses enfants, elle a des limites.
Oui, il peut y avoir vraiment clairement une opposition entre les grands principes auxquels on adhère et puis le principe de réalité. C'est vrai qu'en faisant ce dossier, là, j'ai été assez touchée dans la croix par cette femme qui me disait, pour moi l'école publique c'est indérogeable. J'y ai donc mis mon fils qui commence depuis la rentrée, il a 9 ans, à fréquenter un petit garçon qui n'est vraiment pas de notre milieu social. Au fond, c'est ça qu'elle me disait sans le dire explicitement, vu ses jeux, vu ses comportements, vu son registre de langue. Et au fond, je fais tout sans le dire à mon fils pour qu'il s'éloigne un petit peu de ce garçon et qu'il fréquente des enfants qui nous ressemblent davantage. Et elle me disait, en étant relativement sincèrement bouleversée, au fond, je suis pour la mixité sociale, mais dans les faits, dès lors que mon enfant y est confronté, est-ce que je la désire vraiment? Est-ce que je suis vraiment à la hauteur du principe que je prône?
André Valévy.
Il y a la question de la différence dans ce que vous abordez, c'est-à-dire que ce qui fait vivre une différence trop importante fait vivre un sentiment de menace aussi et de perte de ses propres repères sur qui on est, comment on se repère justement par rapport aux autres et qu'est-ce qu'on veut maintenir de son identité. Il faut se rendre compte que la différence, c'est le tout début du développement de l'enfant, du bébé. C'est-à-dire que le bébé, dans les premiers mois de la
vie, il va d'abord expérimenter des choses de la différence entre le dedans, le dehors, le chaud, le froid, le bon, l'inconfortable, et que donc c'est structurellement fondamental dans le développement d'un sujet, l'expérience de la différence. Et puis progressivement, il va y avoir aussi la question de la différence entre les garçons et les filles, chez les tout-petits. Et donc on voit tout ce parcours qui fait que la valeur au bout du chemin est une valeur qui parle aussi de comment on a tissé l'expérience des différences en soi et à l'intérieur de la famille.
Allez, on fait un pas de côté avec vous, Julien Bisson, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1. Cette semaine, des jeunes qui prônent des valeurs écologiques, pas forcément les mêmes que celles de leurs parents.
Et oui, mon cher Ali, puisque nous donnons cette semaine la parole aux jeunes du monde entier qui manifestent pour lutter contre le changement climatique et les dégâts que celui-ci va irrémédiablement causer. Une génération climat qui ne se résout pas à devenir une génération sacrifiée, abandonnée par ses parents et ses grands-parents qui n'auront rien fait ou bien trop peu, trop tard. Depuis plusieurs mois, les esprits s'échauffent aussi vite que la planète et les initiatives se multiplient. En décembre, quatre associations, dont Greenpeace et Oxfam, ont ainsi lancé une action destinée à attaquer en justice l'État pour inaction climatique. Leur pétition record, l'affaire du siècle, a réuni plus de 2 millions de signatures, notamment auprès des plus jeunes. Et dans le même esprit, la grève scolaire mondiale, qui va se tenir ce vendredi 15 mars, suit la marche du siècle pour le climat ce samedi, devrait marquer une nouvelle étape, un nouvel acte, comme on dit maintenant, dans cette mobilisation pour la planète, ou plutôt, parlons franchement, pour la survie à terme de l'humanité. Car comme nous l'explique la sociologue Anne Muxel, notre société a du mal à penser collectivement sa propre fin, elle cherche des stratégies d'évitement pour ne pas y croire. Une partie de la population y est même peut-être déjà résignée. Mais notre jeunesse, pour qui la mort est une idée encore lointaine, veut se battre pour avoir une chance de vivre sur cette planète dans de bonnes conditions. Elle fait ainsi écho aux mots prophétiques d'un certain Georges Bernanos qui nous rappelait déjà, je le cite, que c'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à la température normale.
Alors quelle est l'espérance justement de cette jeunesse qui va défiler vendredi et samedi ?
Et bien dans ce numéro, nous sommes justement allés donner la parole à beaucoup de ces jeunes convaincus de changer leur mode de vie pour limiter leur empreinte écologique, d'adapter leur alimentation, leurs déplacements, leurs études même, pour se préparer à un avenir incertain. En fait, ce qui domine chez eux, c'est la nécessité de secouer le cocotier, de tout bousculer pour imposer un calendrier de mesures efficaces et universelles. Ce message n'est pas celui des catastrophistes pour lesquels tout est déjà foutu. C'est un sursaut pour assurer l'avenir, éviter que la Terre ne soit littéralement dévorée par ses habitants inconscients et désinvoltes. Dans ces pages du 1, nous avons interrogé Christophe André, qui est bien connu de cette émission, et qui se penche sur notre inertie climatique et loue ainsi avec les vertus de la jeunesse actuelle. Ils semblent avoir compris les obstacles, dit-il, que rencontrent leurs parents. Ils savent jouer avec les images, raconter des histoires, plutôt que brandir des chiffres. Ils savent que plutôt qu'accumuler des menaces, il faut réinventer des récits d'avenir mobilisateurs. Ils savent enfin qu'ils vont devoir réorienter l'énergie mise dans le consumérisme vers des idéaux, peut-être des valeurs, plus intelligentes. Donc loin d'une attente résignée de la fin du monde, ces jeunes entendent en réalité prendre leur destin en main. Ce faisant, ils tournent le dos aux différentes chapelles écologistes, refusent les clivages politiques traditionnels. Leur message est beaucoup plus simple, beaucoup plus radical. Il ressemble à un cri adressé à la face du monde. Au secours.
Peuvent-ils sauver la Terre, ces jeunes ? C'est le grand dossier à la une de l'hebdomadaire Le 1, à retrouver en kiosque et en librairie. Merci Julien Bisson. Et allez, on continue à s'intéresser au conflit de valeurs entre parents et enfants au 01 45 24 7000. Et là, c'est Vanessa Paradis qui interprète Kiev.
De chaleur glacée.
Vanessa Paradis interprétait Kiev.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h47 et on s'intéresse au conflit de valeurs entre parents et enfants. Standard ouvert au 01 45 24 7000. Avec nous le sociologue François de Singly, la pédopsychiatre Anne Révalévy, le psychologue clinicien Didier Pleu et la journaliste à la Croix, Marie Boéton. Comment se transmettent les valeurs dès le plus jeune âge, Anne Révalévy?
Dans une expérience partagée où à la fois on explique et à la fois on fait des choses. Donc il y a toujours dans une transmission auprès des enfants l'articulation entre un récit, une narration, pour pas dire une démonstration parce que ça ne fonctionne pas, mais on raconte quelque chose qu'on articule à quelque chose qu'on fait, un acte qu'on pose, et ça dans un moment où on partage une expérience avec l'enfant, tout petit déjà, hein, c'est-à-dire que quand on veut poser des règles, des interdits, des données de respect de l'autre, de ce qu'on peut faire et pas faire, il faut en dire quelque chose, en raconter quelque chose, quand on pose un acte. Et c'est l'accompagnement permanent de la parole et de l'acte dans une articulation et une cohérence qui tisse le support de la transmission des valeurs, entre autres.
Didier Pleu.
Oui, c'est le côté modèle, authenticité du parent. Là, je voyais l'autre fois, on travaillait sur l'intolérance aux frustrations, bien sûr, avec un ado qui avait beaucoup de mal à se séparer de ses écrans. Et finalement, une seconde fois, il venait avec son père en salle d'attente. Je les vois, ils étaient tous les deux en train de jouer avec une tablette. Donc là, il a fallu que je parle aussi un peu au papa en disant c'est pas possible de déconditionner votre fils des smartphones et autres si vous-même vous êtes accro à ça, et c'est très difficile. Ça veut pas dire qu'il faut être un parent parfait, mais au moins un parent vrai.
Qu'est-ce que c'est que cette marmite, Olivier?
C'est une marmite de riz complet. On en a assez des repas pourris que vous nous faites bouffer depuis des années. Alors à partir de maintenant, dès qu'on verra un aliment malsain dans cette maison, on jettera la poubelle.
Vous avez jeté le repas à la poubelle?
On a jeté le foie gras, parce que c'est le foie malade et toxique d'un animal qu'on a torturé. On a jeté la côte de bœuf, parce que les bœufs, ils sont piqués aux antibiotiques et aux hormones, et qu'ils mangent que des pilules chimiques. On a jeté le gâteau parce qu'il contient que des sucres, des graisses et des microbes, une vraie usine à caries.
Si vous voulez mourir à 50 ans de sclérose en plaques, de cancer ou de crise cardiaque, c'est votre problème.
Mais il y a des réalités économiques derrière la pollution. Il y a des éleveurs, il y a la concurrence.
Et alors? Faudrait tous qu'on s'intoxique pour que les éleveurs puissent continuer à faire du fric sur le dos de la santé des gens. Et si demain les gens comprennent que la viande c'est mauvais, qu'ils arrêtent d'en acheter, eh ben les éleveurs ils arrêteront d'élever. Ils cultiveront des céréales à la place.
Sarah, tu montes dans ta chambre immédiatement.
Je t'emmerde, vieux con.
Sarah, je t'ordonne de faire des excuses à ton père.
Des excuses, mon cul.
Ça suffit maintenant, petit con.
Un beau conflit de valeurs dans la crise en 1992 de Colline Serrault. Marie Boéton, dans La Croix, vous évoquez cette mère de famille dont le fils aîné ne voulait plus manger de viande.
Oui, en effet, qui, dès l'âge de 6 ou 7 ans, a décidé en effet de ne plus consommer de viande, ce qui devient de plus en plus fréquent. Ce qui était relativement intéressant chez cette maman, c'est qu'elle disait, voilà, a fortiori elle, mais surtout son conjoint, était peu désireux au départ d'accepter ça d'un enfant aussi jeune. Puis ils se sont fait à l'idée, il a continué à, je crois, à consommer du poisson et des œufs. Et ce qui est très intéressant chez cette maman aujourd'hui, c'est qu'elle me dit, voilà, on a familialement suivi notre enfant et au fond, aujourd'hui, on consomme nous-mêmes beaucoup moins de viande. Et elle dit assez joliment, il nous a précédé quelque part. Il y avait pour nous quelque chose qui relevait quasiment du corpus de valeurs. On avait toujours consommé de la viande, etc. Bon, et eux apprécier ça particulièrement. Et c'est intéressant de se dire, notre enfant peut là, nous sensibiliser, en l'occurrence, à une cause écologique, environnementale.
François de Singly.
C'est un bel exemple. Parce que la logique de la transmission, c'est quand même de donner à un successeur. Et quelquefois, ça c'est quand même, à mon avis, dans la modernité. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner la succession. Mais quand même, et de plus en plus, accepter aussi que pour un certain nombre de choses, ils peuvent nous précéder. Et ça permet de revenir au numéro 1.
De Julien Bisson.
Qui est justement quand même cette expression si belle que nos enfants, moi j'y suis sensible parce que je suis vieux, mes enfants et mes petits-enfants m'apprennent aussi des formes de récits d'avenir. C'est pas forcément nous.
Il est bon parfois que vous qui luttez contre les enfants tyrans, que nos enfants remettent en question nos valeurs sur certains thèmes.
Non, mais bien sûr. Moi, s'il y avait eu que moi, il y aurait eu Bob Dylan, et grâce à mes enfants, je me suis ouvert à la musique, à des tas de choses qui m'ont appris en retour. Bien sûr, il n'y a pas un côté un dictateur, les enfants soumis. Mais attention, si un enfant m'avait dit chez moi, je voudrais un régime vegan, je lui aurais dit, tu vas faire les courses et tu vas faire la cuisine. C'est ça la petite différence. Je vois trop de parents qui collaborent, qui se soumettent avec des ados souvent en crise. C'est pas une crise d'ado, les ados en crise.
André Valévy.
Je voudrais ajouter autre chose. Il y a des familles où l'enjeu au quotidien, je pense aux familles en difficulté économique, en difficulté sociale, qui sont exclues. On est quand même dans une société où il y a des zones de fragilité importantes, où la valeur, les valeurs sont complètement organisé autour de la survie. Et je pense que là, on a un échange autour de comment on transmet ses valeurs. Tout ça, c'est très bien. Mais je voudrais, sans être rabat-joie, hein, je voudrais quand même insister que ce sont des questions qu'on peut se poser quand on peut vivre. Vivre, c'est-à-dire se nourrir, nourrir ses enfants, faire en sorte qu'ils soient dans un environnement à l'abri d'une certaine violence sociale, physique, où on subit pas de harcèlement, de violence sexuelle. Enfin, je vous fais une petite liste rapide et pas trop caricaturale. Donc après, on peut parler de qu'est-ce qu'on transmet comme valeur, mais il faut pouvoir survivre.
Que dans les pays où il y a le plus de problèmes de survie, il y a le plus de transmission avec les ancêtres. Ça me pose question.
Mais alors là, pour le coup, c'est une autre discussion. Il faut pouvoir aborder comment se structurent culturellement les choses des transmissions entre enfants et adultes. Mais moi, j'insiste, ici, maintenant, en France, dans la société comme elle est, avec ses zones de forte fragilité, de forte tension, les valeurs, parfois, c'est surtout noué autour de comment je vais survivre. Et ça mobilise un certain nombre de choses.
Bonjour Florence, bienvenue, vous appelez de Rennes.
Oui, bonjour.
Alors vous avez trois ados.
En fait, moi, j'ai trois enfants de 23 ans à 16 ans. Mmh. J'ai un fils de 23 ans, une fille de 19 ans et une fille de 16 ans. Mmh. Le gros problème a été avec mon fils de 23 ans, effectivement, qui refusait nos valeurs, qui était très addict aux écrans et c'était donc très conflictuel. Pourtant, j'essayais de parler, effectivement. Mais moi, quand je parlais avec lui, effectivement, très vite, je faisais référence à mon éducation, à mes parents, parce qu'il était gardé souvent avec ses grands-parents. Mmh. J'essayais de lui dire, moi, papy et mamie m'ont donné ces valeurs, j'en ai fait quelque chose. Elles sont pas peut-être les bonnes, je sais pas. Je suis pas une mère parfaite, je lui disais aussi, je fais vraiment ce que je peux avec toi. Et en tout cas, ma satisfaction actuelle, c'est qu'il a 23 ans. Et finalement, toutes les valeurs que je lui ai quand même transmises, c'est-à-dire je tenais beaucoup à la tolérance, à l'écoute, même si il a fait avec aussi la manière dont il vivait, eh bien, il les a acquises. À 23 ans, je me rends compte que, ça a apporté ses fruits, malgré des grosses périodes de conflit avec lui et avec son père. Voilà. Mais moi, j'ai toujours fait référence à ses grands-parents, très vite en tout cas, et très souvent. Et effectivement, il pouvait voir que dans les faits, il allait chez ses grands-parents. Je pense qu'il en parlait avec ses grands-parents, des conflits à la maison. Et ça a certainement joué, en tout cas, à ce qu'il arrive quand même, malgré ces gros conflits, à grandir.
Merci, merci beaucoup, Florence, pour votre joli témoignage. Il ne faut pas éviter le conflit, André Valévy, Didier Plou.
Non, du tout.
Non,
du tout,
ouais. Il ne faut pas
l'éviter. Mais attention aux valeurs de plaisir. Hein. Souvent, quand il y a cette fameuse crise d'adolescence, ce sont des valeurs de fun que les jeunes ont. Et là, il faut résister en tant que parent. Et donc, c'est forcément conflictuel. Mais conflit, ça ne veut pas dire agression, ça veut dire opposition.
André Valévy, on n'évite pas le conflit.
On n'évite pas le conflit, et puis on est capable, comme fait madame, d'introduire des éléments de sa propre histoire, de sa propre intimité, qui rendent d'un coup les conflits aussi avec un autre éclairage. C'est-à-dire que, on s'oppose, mais on s'inscrit dans une histoire.
Beaucoup de questions sur l'orientation sexuelle quand on vit dans une famille plutôt traditionnaliste, qui a des positions très tranchées sur l'homosexualité, et qu'on se sent gay ou lesbienne. Comment on fait dans ce type de conflit ?
Alors là, moi, ça m'embête que vous parliez de valeurs, là. Là, c'est plus une question de valeurs, c'est une question de représentation du monde avec des modèles. Parce que les valeurs, pour moi, il y a quand même une aspiration assez positive. C'est-à-dire que si le choix d'objet sexuel s'inscrit dans la question des valeurs...
Mais certains parlent de valeurs traditionnelles.
Je sais. Non, mais je donne mon point de vue pour nuancer un peu les choses. C'est-à-dire que là, pour le coup, si on sent que dans son propre milieu familial, sa propre identité, ses propres choix se retrouvent en opposition maison, il faut trouver de l'aide à l'extérieur pour ne pas se mettre dans une situation d'explosion et d'expulsion absolument insupportable. Donc là, il faut aller mobiliser de l'aide à l'extérieur et pas rester seul dans ce noyau fermé.
Didier Pleu.
Tout à fait d'accord, mais je me souviens d'un ado qui était venu en consultation, qui était complètement fâché parce que quand il avait fait son coming out, il avait dit à sa maman qu'il préférait effectivement les hommes, elle avait explosé. Il disait, je comprends pas, alors que c'était ma mère, etc. Et je lui disais, mais t'as aussi cet effort à faire, là. Oui, parce que je pense que ça heurtait ses valeurs, quelque part, même si elles étaient traditionnelles, chrétiennes, j'en sais rien. Ça l'a heurté. On a le droit d'être heurté en tant que parent. Et moi, je dis toujours aux ados, mais c'est ça aussi l'empathie. Ça veut dire, oui, tu vas vivre ta vie, etc. T'as une nouvelle orientation. Mais respecte aussi la réticence, ou je sais pas quoi, l'intrigue.
Juste, des enfants d'orientation sexuelle différente sont ceux qui se suicident le plus. Donc, doucement, sur l'intérêt et la mobilisation.
Quand même, c'est une manière, je comprends tout à fait ce que tu dis, mais il y a quand même une ambiguïté. Parce que s'il y a des gens qui utilisent souvent le terme valeur, c'est quand même plutôt ceux qui utilisent les termes valeurs traditionnels, historiquement et incontestablement. Donc on peut toujours dire, on ne va pas en parler de valeur, mais eux, ils le construisent quand ils vont manifester, ils pensent qu'ils le manifestent au nom de valeur.
Oui, mais il faut faire attention aux effets sur les enfants, mais, et sur les enfants les plus fragiles. Donc je suis quand même obligée de le dire, ça.
C'est leur registre.
Un tout dernier message de Charlotte sur notre page Facebook. Difficile de se construire et de s'assumer à l'âge adulte, d'assumer une pensée personnelle quand les parents ne pense pas de la même manière. L'un vote à gauche, l'autre à droite, ça pose de tableau. Penser l'argent, la liberté, l'autorité, que sais-je, reste parfois compliqué avec cette impression qu'entre les deux modes de pensée, mon cœur balance. Merci à tous d'être venus. Merci Didier Pleu. Votre dernier ouvrage, rappelez le titre. Développer la concentration de son ado. Merci Anne, professeur André Valévy d'être venu. Merci. François de Saint-Glis, sociologie de la famille contemporaine, c'est publié chez Armand Collin. Merci Marie Boéton. Votre papier est à lire dans La Croix de ce jour. Vendredi, la bande de Grand Bien Vous Fasse vous attend au Salon du Livre, porte de Versailles, dès 9h45 pour une sélection de livres qui font du bien. Les fans de Julien Bisson pourront le voir en vrai. Venez nombreux sur le stand de Radio France. Toutes les infos sur franceinter.fr. Demain, on se demande si l'on peut vraiment trouver l'amour sur les sites et les applis de rencontres. Racontez-nous vos joies et déconvenues. Dites-nous surtout si vous y avez trouvé votre moitié. 01 45 24 7000. À la technique ce matin, Pierre-Yves de Rolin et Kevin Pelot.